Mais tout d'abord, on se tourne vers le service juridique de l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées du Québec, qui a un rôle conseil général auprès de l'Office, un rôle de soutien-conseil auprès des agents d'aide et de conseiller personnalisé auprès des personnes handicapées. On se penche sur les accommodements raisonnables pour les personnes en situation de handicap dans un contexte de copropriété avec Maître Christian Roux. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous allez bien?
Oui, très bien, vous-même.
Oui, merci. Tout d'abord, avant d'entrer plus spécifiquement dans cet aspect juridique, qu'est-ce qu'on entend par copropriété?
Bien, les copropriétés, ce sont des appartements, des parties divises que plusieurs propriétaires occupent, acquièrent dans un même complexe immobilier où il y a plusieurs unités d'habitation.
Donc, ça peut être à la fois des condos comme des coops d'habitation.
Dans la mesure où les personnes sont propriétaires de leur unité de logement, on parle de condos. Quand on parle de... Souvent, les coops d'habitation, c'est à location, c'est des logements, c'est loué. Donc, c'est des unités d'habitation à des fins de location.
Mm-hmm. Et quel est le cadre juridique sur lequel s'appuie la question des accommodements pour les personnes en situation de handicap?
On parle toujours dans un contexte de condo. De condominium?
D'un contexte de copropriété, exactement.
De copropriété. Bien, il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en considération. Évidemment, il y a le Code civil qui prévoit les documents de copropriété, les droits et obligations du syndicat et des copropriétaires entre eux. Ce qui est important de savoir quand on parle d'accommodement, c'est que ces règles-là qui sont prévues au Code civil doivent être interprétées et mises en application conformément à la Charte des droits et libertés. Et d'ailleurs, le Code civil est très clair à cet effet. Dans sa disposition préliminaire, on y lit clairement que le Code civil régit en harmonie avec la Charte des droits et libertés les rapports entre les personnes.
Mm-hmm.
Et après ça, évidemment, il faut tenir compte évidemment de la Charte des droits et libertés de la personne qui consacre, comme vous le savez, le droit à l'égalité sans discrimination, qui fait en sorte de prévoir, dans le fond, qu'une personne handicapée doit avoir le même accès au même titre que les personnes qui ne sont pas handicapées à leur lieu d'habitation, qu'il s'agisse d'un condominium ou d'un logement locatif, et ce, en vertu des articles 10, 12 et 13 de la Charte, sans oublier, évidemment, l'article 4 qui protège le droit à la sauvegarde de la dignité et l'article 49 qui prévoit un recours en cas de contravention à ces manquements, à ces obligations, à ces droits et obligations-là.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des documents spécifiques de copropriété, par exemple, des relations juridiques entre les parties? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus spécifique? Parce que, bon, la Charte des droits et libertés, justement, prévaut sous tout type d'habitation, tout type de logement, mais spécifiquement lorsqu'il vient le temps d'acheter un condo ou parfois si on est déjà en situation de handicap ou bien si on devient handicapé lorsqu'on habite déjà, est-ce qu'il y a des formules juridiques qui entrent en ligne de compte?
Il y en a plusieurs, c'est que c'est du cas par cas, évidemment, mais quand on parle de condo, de condominium, d'appartement condominium, on parle de déclaration de copropriété, d'acte constitutif, comme je disais tout à l'heure, de règlement de copropriété, où on décrit les parties privatives et les parties communes, les devoirs du syndicat. C'est une forme de convention entre les copropriétaires. Il y a différentes réglementations. Et lorsqu'une personne veut acquérir, se porter acquéreur, par exemple, d'un unité de condominium, elle doit faire une offre d'achat. Et d'ailleurs, si vous me permettez, j'ai eu un des premiers cas que j'ai eu quand je suis arrivé ici à l'office il y a plusieurs années.
Mm-hmm.
Ça a été le cas d'une jeune professionnelle qui avait fait une offre d'achat pour un condo qui avait été accepté par le propriétaire du moment du condominium en question. Et en vertu des règlements et des documents de copropriété, l'offre d'achat devait être soumise à l'Assemblée des copropriétaires pour approbation. Et la personne qui avait fait l'offre était une personne handicapée en fauteuil roulant et elle avait mentionné une demande en même temps que l'offre d'achat, une demande pour que soit qu'il y ait l'installation d'ouvre-porte automatique à l'entrée commune.
Mm-hmm.
L'ouvre-porte automatique allait être subventionnée par la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme PAD, le programme d'adaptation à domicile.
Tout à fait.
Et donc, il n'y avait aucune charge pour les copropriétaires.
Mm-hmm.
Et malgré tout cela, à notre grande surprise, l'offre d'achat avait été refusée par l'Assemblée des copropriétaires qui ont pris un vote là-dessus. Et évidemment, on a dû argumenter et un peu expliquer à ces gens-là les droits et obligations, expliquer que il y avait un devoir d'accommodement raisonnable à l'endroit de la personne qui voulait se porter acquéreur de l'unité de condo. On craignait, on invoquait du côté de l'Assemblée des copropriétaires une augmentation des coûts d'assurance, on invoquait le fait d'une mauvaise expérience antérieure. Et la Commission des droits de la personne a été saisie du dossier après que nous en avons été saisis et a conclu qu'il y avait discrimination et a demandé au syndicat de copropriété d'adopter une réglementation pour permettre une intégration harmonieuse des personnes handicapées dans leur unité de condo et leur a demandé de verser une somme importante à titre de dommages et intérêts. Donc, c'est du cas par cas, mais il faut toujours regarder tous les documents de copropriété, mais ces documents-là doivent, comme je disais tout à l'heure, être mis en application, interprétés conformément à la charte. J'ai eu un argument à un moment donné avec une avocate qui représentait des copropriétaires et qui soutenait que à partir du moment où l'Assemblée des copropriétaires respecte les dispositions du Code civil quant aux les modalités de vote des décisions et tout, la procédure, que l'Assemblée des copropriétaires, toute décision qu'ils prenaient était souveraine et qu'on ne pouvait pas leur remettre la décision en question. Je m'étais inscrit en faux contre une telle affirmation juridique en expliquant que c'était les décisions devaient être prises, mais en conformité avec la Charte des droits et libertés.
Tout à
Ce qui
fait.
veut dire, par exemple, si vous me permettez un petit exemple, ce qui veut dire que même si l'Assemblée des copropriétaires se réunissait en se respectant toutes les modalités prévues au règlement et à l'acte constitutif, et qui prenait une résolution ou une décision d'amender le règlement pour prévoir, par exemple, adopter un règlement anti-animaux qui interdirait d'avoir un animal qui permet de pallier un handicap, bien, ce serait contraire aux articles 10 et 13 de la Charte, par exemple.
Justement, parce que ce sont des cas qu'on a vus émerger dans les médias dans les dernières années, entre autres un homme qui avait besoin d'un chien d'assistance, justement, qui développait une surdité et le chien pouvait l'aider et que ça causait justement des frictions avec les autres propriétaires des condos dans l'habitation où il était parce que justement, il était devenu handicapé, donc après avoir acheté son condo. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là?
Bien, je pense que je sais à quel cas vous référez, mais il y en a eu quand même plusieurs
Mais il y en a
autres
eu plusieurs, oui,
en
effectivement.
jurisprudence. Je peux vous dire ça. J'ai été témoin de plusieurs autres cas en jurisprudence. Les motifs qu'on invoque, premièrement, celui qui est propriétaire, là, tantôt je parlais de quelqu'un qui voulait acquérir se porter acquéreur d'un condo, mais la personne qui est déjà propriétaire, je reprends l'exemple de tout à l'heure, la charte doit avoir préséance, c'est une ordre publique et tout ça. Et si le règlement prévoyait l'interdiction d'avoir des animaux, maintenant, dans son unité de condo et dans les espaces communs, même si la personne qui est devenue avec un problème de surdité par la suite, ou en tout cas handicapée par la suite, après une fois qu'il demeure dans son condo, même s'il y avait, tu sais, en se portant acquéreur, en étant propriétaire du condo, les gens acceptent la réglementation, bien, étant donné que c'est d'ordre public, si la personne devient handicapée par la suite, cette clause-là, par exemple, anti-animaux, ne lui serait pas opposable parce que la charte a préséance.
Tout à
Donc,
fait.
à partir de ce moment-là, les motifs qui sont souvent invoqués quand on parle de présence de chiens, qu'on parle en unité d'habitation, qu'on parle en scolaire, en loisirs, je l'ai vu en différents domaines, même en emploi, cas de jurisprudence assez important qui a été rendu récemment, on invoque souvent les allergies, on invoque la malpropreté, la crainte. Les aboiements et des choses comme ça. Et tous ces motifs-là, en tout cas avec la jurisprudence que moi j'ai pris connaissance, ça a été rejeté. Mais c'est sûr que c'est du cas par cas et il y a une plainte pour discrimination, puis à ce moment-là, ben si ça se rend devant le tribunal, si on réussit pas avec la médiation et des pourparlers, et si ça doit se rendre devant le tribunal, bien à ce moment-là, le tribunal va examiner la situation cas par cas, va regarder si, par exemple, en scolaire, c'est arrivé où un enfant avait eu une forte réaction allergique dans une classe, et ça a été devant le tribunal. Il y a eu un médecin qui est venu témoigner, un médecin allergiste, et il a donné un témoignage à l'effet que les allergies et les réactions étaient beaucoup moins alarmantes que ce que la commission scolaire voulait prétendre pour interdire la présence du chien. Et le tribunal a ordonné la réintégration de l'animal qui avait été expulsé là, que la commission scolaire. Mais en matière de condo, ben, c'est la même chose. Si jamais ça aboutit devant un tribunal, le tribunal des droits de la personne, notamment, bien, la preuve va être examinée, puis souvent, les tribunaux vont arriver à la conclusion que les droits sont... Les droits de la personne, une personne est indissociable de son chien. Ça, les tribunaux l'ont dit à plusieurs reprises. On ne peut pas séparer une personne de son chien qui sert à pallier son handicap. Ça, ça a été dit régulièrement et c'est accepté dans le milieu juridique. Donc, avant
c'est ce qui a préséance, en fait, justement, toujours en accord avec ces articles de la Charte des droits et libertés par rapport à même tout autre type de documents juridiques. On aborde depuis le début de l'entrevue cette question d'accommodement raisonnable. Il y a cette obligation d'accommodement raisonnable, mais il y a aussi la question de la contrainte excessive. Qu'est-ce qui peut être considéré comme une contrainte excessive?
La contrainte excessive, on parle souvent de la question des coûts. Hein. C'est souvent un prétexte qui nous est servi en disant ça me constitue une contrainte excessive, les coûts par rapport à la capacité de payer sont trop élevés. Et c'est tellement souvent évoqué que la Cour suprême a cru bon de faire une importante mise en garde sur la question des coûts. Et si vous permettez, je peux peut-être vous en faire état. Je vais juste repérer la situation de la Cour suprême. On dit, si vous permettez, bien que dans certaines circonstances, le coût excessif puisse justifier le refus de composer avec les personnes atteintes de déficience, il faut se garder de ne pas accorder suffisamment d'importance à l'accommodement de la personne handicapée. Il est que beaucoup trop facile d'invoquer l'augmentation des coûts pour justifier un refus d'accorder un traitement égal aux personnes handicapées. Je me sers souvent de cet extrait-là quand on m'invoque les coûts. Mais il y a aussi d'autres motifs qui sont parfois évoqués, comme on regarde l'adaptation des lieux et des installations existantes. Est-ce qu'il y a, on regarde aussi la question des subventions disponibles. On parle de toutes sortes, on invoque certains critères, mais ce qui est important de noter, c'est que quand il y a une obligation, quand il y a discrimination, ça fait naître une obligation d'accommodement. L'obligation d'accommodement impose aux syndicats de copropriété, dans ce cas-ci, on parle de condo, de rechercher activement toutes les solutions possibles pour adapter et permettre à la personne handicapée d'avoir accès au même titre que les autres copropriétaires à son unité ou aux parties communes et privatives. Et ce qui est important de noter, c'est que le fardeau de démontrer la présence d'une contrainte excessive ne repose pas sur la personne handicapée, mais bien sur le syndicat de copropriété. C'est sur lui que revient le fardeau de démontrer qu'il y a une contrainte excessive. Et ça, c'est pas un fardeau facile à démontrer. En jurisprudence, au cours des dernières années, les tribunaux sont de plus en plus exigeants, avec raison d'ailleurs, sur la démonstration de la présence d'une contrainte excessive. Il suffit pas d'affirmer qu'il n'y a pas de solution, il faut en faire la démonstration qu'on a vraiment regardé toutes les solutions possibles. Il y a quand même plusieurs exemples en jurisprudence.
Exactement. Donc, les deux parties doivent montrer chacune une volonté d'accommodement et de la flexibilité.
Oui, effectivement. Ça, c'est les tribunaux l'ont dit à plusieurs reprises. J'ai vu employer les termes par les juges. Il faut qu'il y ait de la bonne foi, de la souplesse, du gros bon sens. Ça a été dit comme ça dans les jugements que j'ai lus. Il faut faire preuve de diligence. Et les tribunaux ont souligné que le but de la charte, c'est d'amener les citoyens à plus d'ouverture sur les différences afin d'éviter toute forme de discrimination. Mais effectivement, on exige de tous, hein, de la personne qui habite un condo qui demande un accommodement et du syndicat et des autres copropriétaires de faire preuve de flexibilité puis de compréhension, là, c'est sûr.
Est-ce qu'il reste, Maître Roux, est-ce qu'il reste encore beaucoup de sensibilisation, d'éducation à faire dans le public pour comprendre ces enjeux-là?
Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'il faut que le public accepte les gens qui vivent autour d'eux, qui ont des différences et des incapacités. Et ça, il y a encore du travail à faire parce qu'il y a encore des plaintes, beaucoup, à la Commission des droits de la personne pour discrimination sur la base du handicap ou du moyen de panier de handicap. Je regardais un jugement encore tout récemment c'est une personne rapidement qui se présente pour aller faire du camping sur un terrain de camping. Il y a un chien Mira. Et la gérante du terrain de camping, à l'entrée, lui dit « Les animaux sont interdits ici d'un ton assez direct. » Et il essaie d'expliquer, de montrer la carte de Mira qui aurait expliqué pourquoi le chien est là et tout ça, le rôle de l'animal. Et la personne ne veut entendre aucune explication. Et je peux vous dire que le tribunal a sanctionné le comportement du camping en question, de la compagnie qui avait le terrain de camping et de la gérante, en disant que vous avez fait preuve de discrimination. C'est le plus bel exemple que j'ai vu de non-ouverture d'esprit à l'endroit d'une personne qui est aux prises avec des incapacités, là. Donc, effectivement, il demeure encore beaucoup de sensibilisation. Il faut qu'il y ait encore beaucoup de sensibilisation à faire.
Merci, en tout cas, d'accepter nos invitations et à en parler davantage. Ça nous aide à mieux comprendre ces contextes dans lesquels les droits ne sont pas toujours respectés et aussi de comprendre ce à quoi on a droit en tant, entre autres, aujourd'hui. C'était sur le cas l'habitation en copropriété. Donc, merci beaucoup, Maître Christian Roux. Vous êtes avocat au service juridique et corporatif de l'Office des personnes handicapées du Québec, l'OPHQ. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Ça m'a fait plaisir.